l'Association française d'urologie vous présente Podcast AFU, le podcast médical de l'AFU. Cet épisode a été réalisé grâce au soutien institutionnel de Bezin Healthcare. Les prostatites chroniques, syndrome pelvien douloureux chronique. Docteur Clément Sarrazin, chirurgien urologue au CHU de Grenoble-Alpes, nous fait part de son expertise. L'intervenant n'a pas reçu de financement. De quoi parle-t-on exactement quand on évoque une prostatite chronique ou un syndrome douloureux pelvien chronique ?
La prostatite chronique ou syndrome pelvien chronique fait partie des syndromes douloureux pelvien chroniques primaires. Il s'agit d'une douleur persistante ou récurrente perçue dans les structures pelviennes depuis au moins 3 mois, associée à un retentissement fonctionnel et psychologique. À la différence des syndromes douloureux pelvien chroniques secondaires, aucune cause n'est identifiable. La douleur n'est plus un symptôme, mais devient elle-même la maladie. Elle s'est autonomisée et s'auto-entretient par des mécanismes de sensibilisation. Parmi les syndromes douloureux pelviens chroniques primaires de l'homme, on distingue plusieurs entités selon la localisation de la douleur. Le syndrome douloureux prostatique primaire, anciennement prostatique chronique, qui nous intéresse aujourd'hui, se définit par une douleur récurrente ou persistante, reproduite à la palpation prostatique lors du toucher rectal, en l'absence de pathologie locale identifiée. D'autres syndromes existent, tels que le syndrome douloureux vésical chronique, le syndrome de l'intestin irritable, etc., et peuvent être associés. Concernant la nomenclature, une question pratique se pose. Quand utiliser le terme générique de syndrome douloureux pelvien chronique primaire et quand utiliser un terme plus spécifique comme syndrome douloureux prostatique primaire ? La règle est simple. Si la douleur est diffuse ou mal localisée, on utilise le terme générique. Si elle est clairement localisée à un organe, on peut utiliser le terme spécifique du syndrome propre à cet organe. Mais si plusieurs organes sont concernés, on revient au terme générique de syndrome douloureux pelvien chronique primaire. En réalité, un débat persiste. Plus les données s'accumulent sur le rôle central du système nerveux dans ces syndromes, plus la tendance est de s'éloigner d'une nomenclature centrée sur l'organe. Certains spécialistes préfèrent d'ailleurs toujours parler de syndrome douloureux pelvien chronique primaire, quel que soit l'organe apparemment concerné. Concernant la physiopathologie des syndromes douloureux pelvien chronique primaire, l'élément déclencheur est un stimulus douloureux souvent non retrouvé au diagnostic, qui entraîne progressivement une sensibilisation périphérique avec abaissement du seuil des nocicepteurs et activation d'afférences normalement silencieuses. Cela se manifeste cliniquement par une hyperesthésie. Ensuite, une sensibilisation centrale survient où le système nerveux central amplifie le signal douloureux. On observe alors une allodynie et une hyperalgésie. Au niveau viscéral, les stimuli normalement imperceptibles comme le remplissage vésical deviennent conscients et inconfortables. Un point important, les systèmes urinaires, digestifs et reproducteurs partagent des voies de convergence sensorielle, d'où les interactions viscéro-viscérales. Un organe simple peut devenir symptomatique par sensibilisation croisée.
Comment évaluer un patient présentant un syndrome douloureux pelvien chronique primaire ?
Le principe fondamental est celui d'un bilan ciblé dont l'objectif principal est d'exclure une cause secondaire, infection, cancer, calcul, pathologie neurologique. Le diagnostic de syndrome douloureux pelvien chronique primaire est un diagnostic d'élimination. Une fois ce bilan réalisé, il faut éviter les explorations invasives ou répétées qui entretiennent l'anxiété du patient et suggèrent qu'on cherche encore une cause organique. L'anamnèse recherche donc les arguments pour une cause secondaire. Il faut bien penser à interroger sur la consommation de toxiques, notamment la kétamine. Les autres syndromes douloureux chroniques, les troubles anxieux, les troubles de l'humeur préexistants ou les événements de vie traumatiques sont également à notifier car ils sont fréquemment associés et peuvent influer sur la sévérité et la persistance des symptômes. L'évaluation du retentissement psychosocial de la maladie peut être réalisée à l'interrogatoire. Pour l'anxiété, on peut poser des questions du type « Selon vous, quelle est la cause de votre douleur ?» Qu'est-ce qui vous inquiète ? Et pour la dépression, demandez comment cette douleur vous affecte-t-elle au quotidien ? Le reste de l'évaluation fonctionnelle détaillera la description de la douleur, les symptômes du bas appareil urinaire, digestif et sexuel. L'examen physique, après consentement, est réalisé appareil par appareil. L'examen urogénital inclut le toucher rectal qui reproduit typiquement la douleur dans le syndrome douloureux prostatique primaire. L'examen neurologique évalue la sensibilité périnéale, le tonus sphinctérien, les réflexes. L'examen musculo-squelettique recherche une hypertonie du plancher pelvien et des points gâchettes. Cette évaluation peut être réalisée par le médecin, mais une consultation spécialisée chez un kinésithérapeute formé en pelvipérinéologie est une excellente alternative. Les scores standardisés sont utiles pour le suivi. Le NIH Chronic Prostatitis Symptom Index est le score de référence, complété par l'IPSS pour les symptômes urinaires, l'IEF5 pour la fonction érectile et d'autres scores spécifiques de la fonction digestive. Côté examen complémentaire, réaliser un ECBU de milieu de G et éventuellement après massage prostatique et les spermoculture si pertinent. L'échographie rénovésico-prostatique avec mesure du résidu post-mictionnel constitue le bilan d'imagerie de première intention. La délimétrie, la cystoscopie, la cytologie ou le PSA sont réalisées selon le contexte clinique. L'évaluation se conclut par le phénotypage U-Points qui caractérise les composantes du syndrome douloureux pelvien chronique propre à chaque patient. U pour urinary, avec présence de symptômes urinaires gênants. P pour psychosocial, avec présence d'une dépression, d'un catastrophisme, d'une anxiété majeure. O pour organe spécifique, avec un toucher rectal douloureux, une hématospermie, une leucocyturie. I pour infection, avec une bactérie retrouvée dans les prélèvements microbiologiques. N pour neurologique ou systémique, présence d'un autre syndrome douloureux chronique ou d'une fatigue chronique. T pour tenderness, avec présence de points gâchettes, d'une hypertonie du plancher pelvien. S pour sexual, avec une dysfonction érectile, un trouble de l'éjaculation ou une baisse de la libido. Ce phénotypage guide directement la stratégie thérapeutique.
Quelle est la prise en charge thérapeutique du syndrome douloureux pelvien chronique primaire?
Une communication empathique est essentielle chez ces patients souvent en errance diagnostique. Il faut annoncer qu'il n'existe pas de traitement miracle. La stratégie sera personnalisée et souvent pluridisciplinaire. Les éléments de prise en charge communs à tous les patients sont une éducation thérapeutique, notamment sur le fonctionnement de la douleur et comment la gérer. Elle permet aux patients de s'engager dans la prise en charge et de participer aux décisions thérapeutiques dans une logique de décision médicale partagée. Le recours précoce à un centre spécialisé dans la douleur est recommandé. Pour l'antalgie, on privilégie les antalgiques simples comme le paracétamol ou les AINS en cure courte et les neuromodulateurs comme l'amitriptyline. La pregabaline n'a pas montré son efficacité dans cette indication. Les associations sont généralement plus efficaces que les monothérapies. Les opioïdes sont déconseillés, niveau limité dans cette indication et risque de dépendance. Ensuite, une prise en charge personnalisée en fonction des composantes retrouvées lors du phénotypage est recommandée, car il permet une meilleure efficacité qu'un traitement non ciblé. Pour le domaine urinary, on prescrira des alpha-glofans en présence de symptômes urinaires évoluant depuis moins d'un an. Pour le domaine psychosocial, on proposera une prise en charge psychologique pour réaliser une thérapie cognitivo-comportementale ou l'apprentissage de méthodes de relaxation. Pour le domaine organe spécifique, on peut proposer une phytothérapie par extrait de pollen, perros ou en suppositoire, ou par sérénoir et pince. Plusieurs spécialités sont disponibles, le plus souvent en libre accès en pharmacie. Pour le domaine infection, antibiothérapie d'au moins 6 semaines par fluoroquinolone ou cycline, uniquement en cas de bactéries retrouvées dans les prélèvements et patients naïfs de toute antibiothérapie préalable avec symptômes durant depuis moins d'un an. Pour neurologique systémique, l'acupuncture a un excellent niveau de preuve avec une recommandation forte par l'Association européenne d'urologie. La neurostimulation transcutanée d'une nerf tibiale postérieure à la cheville est une autre possibilité. Pour le domaine tenderness, on peut proposer une rééducation pelvipérinéale. Pour le domaine sexuel, la réalisation d'une sexothérapie, d'une thérapie de couple, la prescription d'inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5. Le suivi est essentiel. Il faut réévaluer le patient après environ 6 semaines pour évaluer l'efficacité, l'observance et la tolérance. En cas d'échec, il faudra réaliser un ajustement des modalités thérapeutiques et éventuellement orienter vers un centre expert. En cas de succès, l'objectif sera la prévention de la rechute, car l'évolution de ces maladies est souvent fluctuante. Et surtout, il faudra poursuivre un accompagnement du patient dans l'autogestion de son syndrome douloureux au long cours, car dans une grande proportion des cas, le patient devra apprendre à vivre avec sa douleur.
C'était Podcast Affût. Retrouvez tous nos épisodes sur le site urofrance.org.